Du coup, enfin, je trouve que dans ces différentes présentations, il y avait à chaque fois des petits éléments qui étaient mis en évidence. Là, bah, tu mettais en avant la collaboration avec un artiste sénégalais. Smokey, tu as parlé des échanges que vous tissez avec ce mouvement de mobilisation au Congo. Et j'ai noté que tu parlais dans ton PowerPoint du projet Aura, dans lequel tu étais membre artiste uni pour le rap africain. Et c'est vrai qu'on sait qu'il y a une longue tradition de mise en réseau des artistes hip-hop engagés, notamment en Afrique de l'Ouest, au-delà de l'Afrique de l'Ouest, avec la France aussi, avec les États-Unis. Je me demandais en fait comment ces réseaux déjà existants du hip-hop se couplent et se combinent avec des réseaux de mobilisation qui se corrèlent au hip-hop. Je ne sais pas si je me fais comprendre dans ma question.
Comme disent les inconnus, tu peux répéter la question.
Non, mais je crois que j'ai compris. En fait le truc, c'est que nous, la chance qu'on avait, en tout cas, c'est qu'on était... on ne se substituait pas aux revendications et aux luttes. Et si à un moment donné, l'implication dans un discours ou une pratique dite politique n'est pas que du vent, à un moment donné, tu es au contact des gens. Et tu es éclaboussé, si je peux me permettre l'expression, par leurs revendications et les luttes qu'ils portent. Donc, rentrer dans les réseaux... Finalement, si tu es vraiment dans le truc, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est juste être vraiment sur le terrain. Nous, à l'époque, on nous voyait beaucoup dans les manifestations. Il y avait eu un gros mouvement dans les années 94-95, je crois que c'était le CIP. Bon, on nous voyait beaucoup. Bon, puis moi, en ce qui me concerne, d'un point de vue plus personnel, j'ai toujours été impliqué. Même encore aujourd'hui, il m'arrive d'être sur le terrain, sur des manifs. Bon, je suis moins au feu parce que j'ai plus le même âge et que j'ai d'autres préoccupations maintenant, mais je suis toujours en lien avec des gens que je croise dans les luttes et dans les réseaux depuis 30 ans.
Après, ma question n'était pas du tout claire, je vais la reformuler. En fait, c'était plus, il y en a marre, il y a le ballet citoyen, il y a un mouvement à un moment au Gabon qui est né, qui s'appelait Ça suffit comme ça. Il y a des artistes, par exemple, en France, qui organisent des mobilisations comme le concert de ce soir pour Adama, auquel on fait une petite référence au passage. Moi, ma question, c'est est-ce qu'ils travaillent ensemble, ces différents groupes-là? Est-ce que, par exemple, le ballet citoyen, vous faites des rencontres avec il y en a marre pour faire des partages de connaissances, pour dire comment nous, on s'organise? Et est-ce que ces savoirs sur des modes de résistance par le rap et par d'autres pratiques qui vont autour, est-ce que vous les partagez? Est-ce que ça se transnationalise, en fait?
Oui, merci. D'abord, avant de répondre à cette question rapidement, j'aimerais dire que c'est vrai, rendre hommage au groupe Assassin, c'est vrai, ça fait quand même très longtemps qu'ils sont dans la contestation, et ils le font bien en plus. Rend hommage à Rockin' Squat, d'ailleurs j'ai croisé son vieux père, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on est souvent en contact. Je veux parler de Cheikh Tidiane Seck à Bamako, parce que depuis quelque temps ils font des choses ensemble. Voilà, donc déjà dire bravo pour ça. Et puis, mais je ne suis pas complètement d'accord avec ce que tu as dit, mon frère, par rapport au rap. Je suis d'accord sur le fait que ce n'était pas forcément politique dès le début, même s'il y avait des groupes comme Public Enemy, Africa Bambaataa ou même Grandmaster Flash qui a fait des titres quand même contestataires, politiques même, je dirais. Mais à la base, pour moi, tous les mouvements sont contestataires. Que ce soit dans la gestuelle, dans la tenue, dans la façon de faire les choses... Pour qu'un nouveau mouvement naisse, il faut qu'il y ait de la contestation. C'est dans la contestation qu'il y a création, créativité, et je pense même au jazz. Quand le jazz est né, il a fallu abandonner certaines choses, certains trucs pris pour acquis. C'était déjà de la contestation, comme dirait Senghor Franz Fanon, négrière, certes. La contestation nègre, mais on voyait bien qu'ils étaient en déphasage avec ce qui se faisait. Donc pour moi, à la base, un mouvement qui se met en place, un mouvement culturel original, il faut forcément qu'il y ait de la contestation dès le départ pour se démarquer de ce qui se fait habituellement. C'est cette rage-là qui nourrit finalement la créativité. Même si je reconnais, encore une fois, parce que quand on dit politique, ça veut dire organisation, etc. C'était pas encore, c'était le début de l'organisation. Je vais te laisser réagir là-dessus pour que tu... Mais je sais... Ok. Ensuite, là, je vais répondre à la question. Est-ce qu'on est réseauté? Exactement. Oui, on l'est. On l'est. On se voit assez souvent. Nous, on a invité Yann Amar deux fois avant l'insurrection au Burkina Faso. Ils sont venus et à Ouaga et à Bobo-Dioulasso, qui est la deuxième ville. Je dis bien avant l'insurrection. C'était parce qu'on pensait que c'était important que certains de nos camarades les rencontrent pour échanger justement sur leur expérience qu'ils avaient eue à Dakar un ou deux ans auparavant, lorsque Abdoulaye Ouad... mais eux, contrairement à nous, ils sont allés aux élections. C'est-à-dire qu'ils sont allés jusque... Ils ont mis la pression et mobilisé les gens pour que les gens ne, pour que Ouad ne puisse pas emporter ces élections-là. Donc beaucoup de monde ont voté avec les gars du M21, je crois, de l'opposition, contre Ouad, du M23, pardon. Nous, on était conscients que si on s'amusait, parce qu'il faut le dire, le Sénégal est une vieille démocratie. Hein, le Sénégal nous a habitués, il y avait quand même déjà une certaine conscience, tradition démocratique et un certain esprit libre. Au Burkina Faso, c'était quand même assez spécial. Hein, deux ans auparavant, on a essayé de faire signer une simple pétition contre l'assassinat de Norbert Zongo pour l'ouverture du dossier. Et il y a des étudiants qui ont refusé de signer. Pourtant, ils n'étaient même pas obligés de mettre leur numéro de pièce d'identité et autres, mais ils ont eu peur. Ils ont refusé de signer catégoriquement. Donc, au Burkina Faso, nous, on était conscients que si on allait aux élections, on allait perdre. Donc, il fallait tout faire pour que Blaise ne puisse pas aller aux élections. Et c'est lui-même qui nous a tendu la perche avec son projet de Sénat et ensuite son projet de référendum. Ça nous a permis, effectivement, de mobiliser les gens pour mettre fin à tout cela. Donc, les réseaux existent, que ce soit avec Filimbi, que ce soit avec la Lucha au Congo, qui est en train de vivre cette situation. C'est l'occasion pour moi, d'ailleurs, de faire un appel à solidarité pour dénoncer tout cela. Ce que Kabila est en train de faire au Congo, ce que Sassou a déjà fait, ce que Idriss Déby va probablement tenter de faire au Tchad, ce que Biya fait depuis Belle Lurette, depuis 37 ou 38 ans, si je ne m'abuse. Le Cameroun n'a connu que deux présidents, Aïdjo et Biya. Et Biya était son second. Donc, c'est pour vous dire que finalement... Le Cameroun n'a connu qu'un seul président. Donc tous ces gens-là, effectivement, qui s'apprêtent à modifier la Constitution au prix du sacrifice de la vie des citoyens, il va falloir que ça s'arrête. C'est pour ça qu'on se réseaute de plus en plus. Il n'y a pas longtemps, on était invité aussi par Yann Amar avec d'autres mouvements au Sénégal, sur l'île de Gorée. Et on allait faire un atelier là-bas, des échanges pour, effectivement, préparer une université, ce que vous appelez ici une université d'été, qui doit avoir lieu encore une fois au Sénégal. Nous aussi, on rencontre des groupes artistiques. J'étais à Bamako il n'y a pas longtemps avec Didier Awadi pour un atelier d'écriture, partage de connaissances et la mise en place d'une association de hip-hop au Mali avec tous les rappeurs maliens. Donc, en fait, on est permanemment en contact et on est conscient que le changement passera forcément par nous ou pas du tout. Voilà. La jeunesse, c'est pas, on n'a rien contre les personnes âgées. Hein. Nous-mêmes, on est en train de tendre vers... Mais c'est juste que pour resituer un peu le contexte historique et social, en Afrique, la jeunesse, c'est au minimum 65. C'est de 65 à 70% de la population, ce qui est énorme. Donc, c'est 70% de la population, c'est ceux-là qui devaient, d'une certaine façon, amener nos États à se développer, à s'émanciper. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les jeunes n'ont pas le pouvoir en Afrique. Les jeunes ne sont même pas impliqués dans les décisions importantes. Et voilà, on doit arriver, on en est conscient.
Juste, oui, pour rebondir donc sur ce que tu disais, moi, je différencie, quand je disais tout à l'heure, le rap n'est pas intrinsèquement politique, il est intrinsèquement une pratique de contre-culture, dans le sens où, à un moment donné, dans certaines circonstances socio-historiques, il y a l'apparition d'un courant culturel qui redéfinit et qui amène un nouvel univers, tant visuel, avec ce qui se passe sur les murs, avec le graffiti, le corporel avec les danseurs, et une nouvelle manière de faire la musique. Le rap, et le hip-hop, même, parce que même moi je prends ça dans sa globalité, est une pratique de contre-culture maintenant, où je dis que c'est pas éminemment politique, c'est que si on se replace dans même comment est apparu le rap, sans vouloir être trop professeur d'histoire ou quoi, le rap, il naît, pareil, de circonstances. La vraie star, dans les années 70, dans les blocs parties au point de départ, la première star, c'est le danseur. Et pour que le danseur danse, il faut qu'il y ait de la musique. Donc, il y a le DJ. La vraie star, c'est le DJ. Le rap, le rappeur, apparaît comme support et faire valoir dans les blocs partis, parce que les premiers MC, c'est juste pour dire « Ouais, mec, il y a lui qui danse mortel, mais comme il fallait rendre le truc, et puis il y a l'autre de tel bâtiment qui est là, super frère, bon, et comme il fallait rendre le truc jouissif et excitant pour le public, les mecs ont commencé à faire ça en rime, en s'inspirant de ce qui existait déjà dans les centres systèmes en Jamaïque, parce que c'est très lié aussi à la culture afro-caribéenne, communauté très présente à New York à cette époque-là. Sur l'histoire de Grandmaster Flash, on a souvent cette référence de ce fameux morceau The Message, donc qui est pour beaucoup et pour moi pendant longtemps la référence du rap social, on va dire, parce que c'est, même si on prend le texte, il n'est pas éminemment politique en tant que porteur de revendications, mais il est social dans sa capacité à retranscrire et à être une chronique de la vie quotidienne d'un mec dans le Bronx. Ce qu'il faut savoir, c'est que Melly Mel, le rappeur de ce morceau, parce qu'il y a que Melly Mel qui rappe, c'est, l'idée de faire The Message vient du producteur Doug Booty, qui a demandé à Melly Mel, il lui a dit, il faut rapper un truc sur la situation d'un mec dans le Bronx, son quotidien. Melly Mel ne voulait pas le faire. Et il a cédé, il l'a fait, et effectivement, quand il a vu que, bon, ça tombait, voilà, ils ont continué un peu dans ce sens-là. White Lines, qui est un grand morceau de Grandmaster Flash, que tu dois connaître aussi, anti-drogue. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Melly Mel a écrit le texte, et c'est lui qui le dit, hein, il le dit dans certaines interviews, c'était un hymne à la cocaïne. C'était tout le contraire. Et les gens qui étaient autour de lui, Sylvia Robinson, Doug Booty, l'ont dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas rapper un truc. Parce que eux, à l'époque, à New York, ils allaient dans les boîtes dans le centre de New York, ils s'en mettaient plein de pif. Et c'était super. Et même d'ailleurs, dans le morceau, à un moment donné, ça dit, get higher, baby. Genre, va plus haut, chérie. Enfin, bon, c'est... Mais ils l'ont transformé en morceau anti-cocaïne. Alors qu'à l'origine, c'est un morceau pro-cocaïne. Mais comme je l'ai signalé tout à l'heure, historiquement, il y a à un moment donné la proéminence d'un rap plus politique, effectivement avec Public Enemy, avec Boogie Down Productions, toute cette génération de la fin des années 80 et qui va, entre guillemets, régner sur le rap jusqu'au début des années 90. Et ça correspond au moment où en France, il y a cette... et notamment bon, à Paris, parce qu'à l'époque, l'essentiel se passe à Paris, il faut quand même le reconnaître, et un peu Marseille. Et un petit peu Lyon, mais globalement, il n'y a pas du rap dans toute la France. Je peux vous dire qu'à l'époque, nous, quand on tournait, on voyait qu'on était quand même dans un sacré désert. Et ça correspond à... Mais le rap porteur de revendications, enfin, c'est
l'actualité aussi, avec la Zulu Nation, avec Black Panther.
Black Panther, c'est autre chose. Black Panther, c'est un parti politique.
Alors.
Au moment où il y a le rap, ça n'existe plus.
Déjà, il y a Abdoulaye qui voudrait répondre à la question. Et ensuite, on aimerait quand même prendre un petit moment pour laisser la parole au public. Donc voilà, je pense que le débat est passionnant et qu'on pourrait en parler des heures. Vas-y.
Oui, il commence à devenir un peu passionné aussi. Oui. Je pense qu'effectivement, si on revient à cette question du réseautage entre les différents mouvements qui se sont constitués dans des pays... Je ne fais que confirmer ce que Smokey a dit tantôt. Ce résultat est extrêmement présent. Et ce n'est pas forcément aussi à ranger dans le cadre exclusif juste de l'engagement politique. Je pense que déjà, même avec la mise en place de certains festivals dans les années 90, il était déjà présent. On a eu certains festivals, Waka Hip Hop en fait partie un peu plus tard, mais il y a eu aussi le festival de Kill Point en Guinée, le rap aussi. Donc, un tissu, en fait, réticulaire existait déjà et qui a facilité par la suite la valorisation de ce réseautage-là pour des mobilisations qui étaient à orientation beaucoup plus politique. On a parlé de Yann Amar, surtout par rapport au Sénégal, et ce que Smokey a rappelé est aussi tout à fait d'actualité, parce que récemment, ça ne date pas très longtemps, justement, Yann Amar avait été invité par leurs collègues congolais et des membres de Yann Amar, ils s'étaient fait arrêter par la police qui les avait accusés d'attentat, je ne sais pas trop, à la sûreté de l'État. En fait, une expression très ronflante qui semblait placer le danger à un niveau extraordinaire, alors qu'on comprenait très bien qu'il s'agissait en fait d'une mise au pas. Parce que je pense que le cas sénégalais est en train de devenir un cas d'école, quelque part. Et beaucoup de dirigeants africains ont extrêmement peur actuellement de la généralisation de ce genre d'action-là. Or, du point de vue déjà des artistes, il y a des actions qui sont en train d'être menées et qui tendent à ça. Ce n'est pas juste le Congo, mais il y a beaucoup de rencontres qui se font durant lesquelles, justement, il y a un partage d'expériences. Et de manière basique, ici, ce que les dirigeants africains veulent faire, je pense, c'est juste couper vraiment le mouvement à la racine. Mais ça va être très, très difficile, il me semble. Ensuite, pour apporter un petit complément, peut-être de remarques par rapport à la question, sur la manière qu'on aurait de s'associer à d'autres mouvements, sans s'y lier ou pas, je pense qu'il y a des pratiques aussi qui peuvent être évoquées à titre d'exemple. Alors, je ne sais pas si j'ai la possibilité encore, hein, le débranchement et le rebranchement est un peu fatigant, mais je voudrais bien montrer une image qui est quand même assez parlante, et qui a été l'une des manifestations phares de Yanamar, qui n'est pas apparue dans ce reportage, et qui a eu beaucoup d'écho au Sénégal. C'est ce qu'on a appelé la foire aux problèmes, justement, qui avait pour vocation, je pense qu'il faut qu'il change la sortie ou l'entrée, je ne sais pas trop, il y a un truc technique. Non, il faut juste qu'il touche. Voilà, donc ça s'appelle la foire aux problèmes, et c'est comme une foire classique, sauf que dans cette foire-là, les stands, en fait, expose des problèmes. Voilà. Donc, c'était une manière pour Yanamar de ne pas être ce qui allait définir ces problèmes-là, mais de dire que ces problèmes qu'ils vont défendre émaneraient de la base même. Que ce sont aux Sénégalais, dans la diversité de leur composition, de venir exposer leurs problèmes, et que Yanamar, en tant qu'organisation citoyenne, allait porter au devant de la scène publique ces différents combats. Donc, enfin, si ça vient venir, parce que c'est quelque chose de très visuel. Ça vient pas? Oui, mais je ne le décris pas aussi bien que l'image. C'est très dommage. Ok, non, ça c'était une manifestation justement à Yanamar, j'étais dedans, mais ce qui avait très mal tourné d'ailleurs après. C'est ça. Donc c'est une foire qui a été organisée, et ça c'était justement au mois de janvier avant la tenue des élections en février. Et l'idée était que, par exemple, les différentes... les Américains disent constituencies, mais c'était surtout des localités, etc., de l'intérieur du pays, viennent présenter des stands avec leurs problèmes spécifiques. Et je vais vous montrer une image qui illustre justement le stand de Dagana, qui est une ville du Nord, et qui, le stand a consisté juste à faire une tombe, en fait. Pour dire quoi? Pour dire que c'était une ville morte. Parce que les dates qui sont choisies ici, bien sûr, sont très parlantes pour un Sénégalais, hein. 1960, c'est la date supposée de l'indépendance. Et 1996 marque l'année un peu de la... Comment ça s'appelle encore? D'une forme de régionalisation, où on avait transféré certaines compétences aux communes. Mais ces communes, bien sûr, n'avaient presque aucun moyen réellement de pouvoir gérer ces compétences-là. Donc, cette image-là, en fait, montre plus ou moins une commune qui est morte avec cette délégation de responsabilité qui, pour le mouvement citoyen Yanamar, était en fait une fuite par l'État de ses responsabilités en tant que telle. Et ce genre d'initiative, justement, a été démultiplié par la suite, où on a eu les Yanamar qui ont été des sortes un peu de réceptacles, plus ou moins donc des revendications qui pouvaient avoir une portée politique. Et peut-être pour finir sur une ou deux choses, justement, ce qui s'est passé, et on l'a entrevu à peine dans le documentaire, c'est qu'en un moment, il y a eu une forte hésitation, parce qu'il s'agissait de tout un mouvement qui allait bien au-delà de Yanamar. C'est le M23, comme l'a dit Smoky. Ce qui s'est passé, c'est qu'au dernier moment, les gens du M23 ne voulaient absolument pas du tout descendre dans la rue. Donc il y a eu plusieurs épisodes comme ça, durant lesquels, en fait, Yanamar a été obligé de faire cavalier seul, parce que les autres jugeaient que ça aurait été peut-être trop radical d'aller directement dans la rue, etc., etc. Donc je pense que ce sont, comme on l'a dit un peu, hein, des circonstances, des contextes qui peuvent donner un sens au choix d'un type d'action ou d'un type d'attitude, d'une posture particulière par rapport à la pertinence supposée d'un tel choix en tant que tel. Et, bon... Je pense que je conclurai par mentionner quelque chose qui va dans le même sens, même s'il ne s'agit pas de Yanamar. On en avait un peu discuté avec Alice. c'est que depuis avril 2013, il y a quelque chose qui a été initié par deux rappeurs, précisément l'un d'eux, Khouman, qu'on appelle le journal télévisé Rapé. Et ce journal télévisé est quelque chose d'assez remarquable parce que, en fait, c'est un journal télévisé, mais qui est rappé, comme l'expression l'indique. Ça veut dire qu'on a un beat qui est là, un instrumental, et puis le premier journaliste, hein, celui qui fait le premier journaliste, rappe en français, et le deuxième rappe en Wolof, la langue la plus parlée au Sénégal. Mais bien sûr, c'est un journal qui présente les informations de manière très politiquement incorrecte. Voilà. Et qui est extrêmement suivi, et qui est devenu tellement populaire que c'est reproduit actuellement dans plusieurs pays dans le monde. En Jamaïque, je ne sais pas trop, enfin, en Côte d'Ivoire, etc., etc. Et si on a le temps, peut-être que je vous montrerai un extrait. Voilà, merci.
Peut-être qu'on pourra, on a plein de choses à montrer à la fin, mais au moment du cocktail, on pourra diffuser ça, diffuser aussi le 11-30, diffuser des morceaux de Smokey. Alors, je crois qu'on doit libérer Madge. Tu peux rester un peu. Ok. Alors on va prendre, on va dépasser un petit peu d'un quart d'heure pour prendre des questions de la salle quand même, parce que ce serait dommage sinon.
Alors merci aux différents intervenants pour cette discussion très intéressante dont on aimerait qu'elle dure encore longtemps. Moi j'ai une question pour Monsieur Abdoulaye Niang, avec qui on partage le terrain sénégalais et que j'aimerais donc faire réagir par rapport à des choses que j'ai vues, que j'ai entendues dans mon terrain, donc qui a commencé fin 2014, donc une période post-Y en a marre, hein, finalement, où il y a aussi le retentissement de ce succès sur l'ensemble du mouvement hip-hop. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est surtout des discours de polarisation autour de ce mouvement, de qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, il ne fait plus rien, ou alors, à l'époque, je n'étais pas d'accord avec ce que le mouvement faisait, je pensais qu'il fallait s'y prendre autrement. Ou alors aussi des discours de ras-le-bol face au discours politique, de pouvoir s'autoriser à parler d'autres choses dans la musique, par exemple. Donc j'aimerais savoir ce que tu penses. Est-ce que la grosse médiatisation du mouvement et aussi le rôle que ça jouait dans la promotion de Kergui à un niveau international, puisque maintenant ils font des tournées même jusqu'au Japon, est-ce que ça va avoir un impact sur les rapports entre musique et politique au Sénégal? Et puis, deuxième chose aussi, un peu par rapport à ça, c'est l'initiative de la MCU, donc, qui est financée par la ville de Dakar, qui a aussi dû distribuer un fonds qui leur avait été accordé par le ministère de la Culture, le Fonds d'appui aux cultures urbaines. Et du coup, est-ce que c'est un début d'institutionnalisation du mouvement rap au Sénégal? Je me rappelle à Amadou Falba, quand je le questionnais sur ça, il me disait, tu sais, au Sénégal, sans les politiques, on ne peut rien faire. Donc je sais très bien qu'ils ont leurs propres agendas, mais lui-même, il était conscient de ça, et donc il pouvait s'en distancer, disons. Et donc, est-ce que c'est un début d'institutionnalisation? Et puis, est-ce que, finalement, c'est un problème ou pas? Voilà, merci.
Merci pour ces questions. Sur les rapports entre musique et politique au Sénégal, est-ce que l'expérience d'Yann Amar aurait changé la donne ou en tout cas entraînerait une forme de réorientation dans le futur? Je pense que ce qu'on peut dire surtout effectivement, et je pense que vous l'avez déjà compris, c'est que on n'a pas eu le temps de le mentionner, mais certes, on a surtout montré d'autres rappeurs qui se sont joints au mouvement par la suite et des rappeurs qui avaient quand même une très grande popularité. Mais il y en a d'autres aussi qui avaient tout à fait refusé de joindre le mouvement. Non pas parce qu'ils trouvaient le combat indu, mais plutôt parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait un transfert, en fait, d'un leadership politique, en quelque sorte, vers un leadership artistique. Pour beaucoup de rappeurs, il n'était pas question de se ranger derrière Yann Amar, qui était un autre groupe de rap comme eux, même s'ils partageaient plus ou moins les idéaux de ce combat. Donc, je pense que le fait qu'Yann Amar ait eu une position aussi proéminente par rapport à ce combat, effectivement, a eu un grand impact finalement sur le succès du groupe. Parce qu'ils se font inviter tout à fait un peu partout dans le monde. Et pas forcément, bon, on ne va pas rentrer dans ces catégories, parce qu'ils sont les meilleurs rappeurs ou pas, mais parce qu'ils représentent quelque chose de très symbolique en tant que tel. Donc oui, ça a contribué quelque part à reconfigurer un certain nombre de choses par rapport au paysage rapologique au Sénégal. Bon, maintenant, sur la question de l'institutionnalisation. Je crois qu'il y a eu un grand débat sur ça hier. Ce sera difficile de l'éviter d'ailleurs ici. En fait, il y a... C'est une question très complexe. Parce que même les rappeurs en tant que tels ont une position assez ambiguë sur la question. D'un côté, il y a une revendication très forte qui dit que nous sommes des citoyens comme les autres. Et nous avons, à ce titre, droit à un appui conséquent de l'État, au même titre que ce qu'ils appellent les malarmènes, ceux qui font du malar. Donc il y a cette revendication qui est là. En même temps, il y a une peur bleue de se faire récupérer politiquement parce qu'on serait alors dépendant de ces subventions-là. Même dans l'organisation des festivals, c'est assez intéressant. On voit à quel point les organisations hip-hop essaient de capter des capitaux étrangers qui viennent, par exemple, de l'Institut français, je ne sais pas moi, de la coopération Wallonie-Bruxelles, etc., etc., pour essayer de garder une certaine forme d'autonomie vis-à-vis de l'État sénégalais. Et c'est d'autant plus complexe et ambigu que, dans le discours de ces mêmes artistes, pourtant, on dénonce souvent ce qu'on appelle de l'impérialisme, qui est en train de se renouveler continuellement. Pourtant, en faisant appel à ces coopérations internationales, on s'expose aussi à une autre forme d'impérialisme quelque part. Parce que dans ces festivals, bon, certes, je fais ça un peu à la louche, hein, parce que je n'ai pas le temps peut-être de parler de certaines nuances, mais dans ces festivals-là, il peut arriver, par exemple, qu'on vous demande d'inscrire à l'ordre du jour un slogan, de créer, par exemple, un concours pour la lutte contre l'exploitation des enfants, etc., etc. Donc, en fait, des thématiques et des priorités qui sont définies plutôt du dehors en tant que telles. Donc c'est une question très complexe et ils ont essayé de la résoudre. Hein. Je ne sais pas si ça va aboutir d'ailleurs, parce que moi-même personnellement, j'avais été contacté pour être, je pense, membre du jury, parce qu'ils disaient qu'ils ne voulaient justement pas qu'il y ait des artistes qui soient dedans, dans le comité de sélection, qui soient donc en même temps jugés partis. Et bon, jusqu'au moment où je vous parle, je ne sais pas, on ne m'a pas encore recontacté. Mais l'idée c'était que pour des fonds justement concurrentiels, qu'on puisse avoir des gens qui sont imprégnés de la culture hip-hop. Je pense qu'il m'avait contacté, moi, Ibrahim, un autre collègue qui est à Dakar, qui travaille beaucoup sur ça. Et l'idée, c'était justement de pouvoir créer un cadre qui soit valablement objectif. Mais je pense que c'est très difficile, très, très difficile. En même temps aussi, quand on parle de la mairie de Dakar actuellement, c'est d'autant plus compliqué que c'est un objet de lutte énorme entre le pouvoir qui est en place et Khalifa Sall qui essaie en fait de se positionner comme le porte-parole du Parti Socialiste qui a perdu le pouvoir il y a quelques années. Donc actuellement, l'ensemble des efforts du gouvernement qui est en train de diriger le Sénégal consiste surtout à déstabiliser en fait la mairie de Dakar en tant que telle. Donc ça, c'est très très complexe. Oui.
Merci.
Je voudrais rajouter quelque chose, même si la question ne m'est pas adressée, sur la question de l'instrumentalisation et dire que quand même tous les pays dits démocratiques, en tout cas là où règne une relative liberté d'expression, d'une certaine façon, on ne peut pas échapper à ce genre de fond-là. Sinon, en ce moment, il faut tout remettre en cause parce que je prends le cas, par exemple, des journalistes. Je sais chez nous, et je sais, on n'est pas les seuls au Burkina Faso, la totalité des médias, journaux, radio, télé, reçoivent une subvention de l'État annuelle. Que systématiquement, ils reçoivent une subvention au nom d'une certaine bonne gouvernance, liberté d'expression, etc., tolérance de la critique. Les partis d'opposition reçoivent tous des subventions au nom aussi de l'ouverture démocratique, etc., etc. Énormément d'organisations de droits humains et d'associations de droits humains touchent des subventions, que ce soit de l'État ou d'ONG, au nom aussi de cette même ouverture démocratique. Donc, par conséquent, il me semble compliqué de vouloir une chose de son contraire, c'est-à-dire l'émancipation, et en même temps vouloir s'émanciper sans profiter des fruits de cette émancipation-là. Si tant est qu'effectivement la mission définitive est d'améliorer le sort et les conditions des gens, j'ai dit bien. Donc on ne peut pas accepter tous les fonds, mais il me semble quand même important qu'on ne peut pas de préciser qu'on ne cite pas la branche sur laquelle on est assis. Le ministère de la Culture aujourd'hui, en France, nous, par exemple, on est très jaloux du statut des artistes français, même si les artistes français disent que ce n'est pas suffisant, ils ont bien raison, en tout cas à leur échelle. Et chez nous, de tels systèmes de financement, tels que, comme ce que la SACEM fait, n'existe pas vraiment en réalité. Le ministère de la Culture du Burkina Faso a combien pour financer les activités culturelles? Mais on voit que ce n'est pas parce que le ministère de la Culture te finance de plein droit en tant que citoyen, en tant qu'artiste, ce n'est pas parce qu'il finance tes activités de la production de ton album que tu dois pour autant fermer ta gueule. Ce n'est pas parce qu'un journaliste reçoit une subvention de l'État que ça veut dire qu'il ne doit plus rien écrire contre l'État. En ce moment, je pense que... Ou alors, ce n'est pas un sacerdoce, ou alors il n'y a aucune... il n'a pas vocation en tout cas à défendre ce qu'il dit et ce qu'il fait, sinon je ne vois pas comment recevoir une subvention d'une quelconque institution, en tout cas légale, pourrait empêcher de parler, de s'exprimer, de critiquer ou de faire avancer les choses. C'est mon avis personnel.
Oui, bonsoir. Une question et un commentaire. Et la question s'adresse au monsieur anthropologue. Et quelle est l'influence des FMI sur le mouvement social politique de Sénégalais? Et le commentaire s'agit de sens politique que le monsieur a dit qu'il n'a pas un sens politique. Et moi, à mon avis, je trouve qu'il a un sens inhérent politique, parce qu'il renvoie à la liberté. Et quand vous avez parlé des blues, quand je peux...
Par contre, peut-être comme on nous a demandé de faire très court avec une dernière question, donc peut-être oui. Si on peut répondre à la d'accord. question et ensuite vous discuterez de ça avec lui okay. autour d'un verre mm-hmm. tranquillement.
Voilà. Oui.
Donc pour, désolée, je suis désolée.
Pour la famille, merci.
Ok. Merci pour votre question, madame. Donc, sur les rapports entre le FMI et le mouvement social sénégalais, je vais peut-être me permettre d'élargir votre question. Je dirais entre le FMI, la Banque mondiale et le peuple sénégalais. Un gros problème pour beaucoup d'autres pays africains, d'ailleurs. Hein. Pour beaucoup d'artistes, il y a une sorte de dépendance qui est structurelle et qui est continue depuis ce qu'on a même pu considérer comme une indépendance et que certains rapports ont dénommé, d'ailleurs, quand on célèbre cette indépendance, la fête de la dépendance. Et dans leur conception, en fait, c'est parce que jusque-là, on n'a pas su, nous n'avons pas su nous libérer justement de l'emprise que ces organismes internationaux ont sur la définition de la politique économique du Sénégal. Et il y aurait énormément d'arguments à évoquer pour confirmer ce point de vue. Ne serait-ce que parce qu'après avoir plus ou moins réussi à remettre en place, hein, parce que certaines politiques avaient été carrément écartées, après avoir réussi plus ou moins à remettre en place des politiques de couverture sociale, après le désastre issu des années 80, du milieu des années 80, actuellement, depuis 3 ans, 4 ans, en fait, le FMI et la Banque mondiale font un retour en force, pas seulement au Sénégal, mais dans beaucoup d'autres pays voisins. Maintenant, ce qui est peut-être intéressant, c'est que justement, il y a eu des accusations contre Yann Amar sur l'opacité des fonds qui leur auraient permis justement de mener leur campagne. Et on a beaucoup cité des organismes internationaux qui auraient été à l'origine de ça. Mais je pense que quand même ce sont des affirmations qui jusque-là n'ont pas pu être vérifiées en tant que telles. Mais globalement, ce n'est pas seulement Yann Amar, mais une bonne partie des rapports sénégalais qui considèrent que le gouvernement sénégalais, parce qu'il est trop faible, n'arrive pas justement à pouvoir définir lui-même ses propres priorités. Et au-delà, et je finirai par ça, je ne sais pas ce que Smoky en pense, mais il y a apparemment de plus en plus, hein, depuis ces dernières années, un mouvement panafricain qui se renouvelle avec les rappeurs en particulier. Hein. Un discours très fort qu'on voit aussi beaucoup dans les graffitis, avec la mise en avant de certains personnages très emblématiques comme Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, qui est énormément cité, etc. Et l'idée est de dire justement que si on est aussi faible face à ces institutions et face à l'extérieur, bon, vous me direz que c'est du réchauffé. Hein? C'est parce qu'on n'a pas su s'unir en tant que tel. Donc il y a un fort appel à renouveler le panafricanisme avec une forme de radicalisation encore plus forte. Il y aurait beaucoup à dire, hein, parce que je pense que comparé au début du mouvement, c'est un retournement assez considérable, parce qu'on a eu une phase où l'exemple de choix semblait être les États-Unis. Or, aujourd'hui, on dit que même pour la définition du rap, en fait, on parle de la contribution des Africains par rapport à ça. Il n'est plus question d'une conformité par rapport à ce qui serait le rap authentique, qui serait plus ou moins basé même sur le plan formel sur les beats américains classiques, mais plutôt de réinventer le rap à partir de la capacité des jeunes Africains à innover et à apporter une contribution significative. Donc je pense que c'est un mouvement très large de libération, hein, en tout cas déclaré, qui est en train de se mettre en place.
Merci beaucoup Abdoulaye, Smoké et Madj pour vos expériences partagées, pour ces discussions. On va en rester là pour ce qui est de ce qui se passe sur cette estrade, mais les discussions vont continuer autour d'un verre pour ceux qui le souhaitent, et on vous propose, en même temps qu'on va vers ce verre, de diffuser différents morceaux, à commencer par un extrait du journal télévisé Rappé dont tu parlais, puis ensuite, parallèlement qu'on boit un verre, on pourra écouter le morceau des 11h30, les morceaux de Smoké, etc.